Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, pour l'interview sur RDIWA, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet de la radio www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Rouchouz. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors Jean-Claude Rouchouz, vous êtes le président de l'association de sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme. Et vous êtes venu dans notre studio pour nous annoncer le 2 avril. Où en est cette association? Quel est son bilan de 2015?
Alors l'association de sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme a été créée en avril 2012. Hein, et elle s'occupe de restaurer, sauvegarder, étudier tous les cimetières familiaux du département. Donc, on a établi une fiche descriptive et plusieurs personnes bénévoles vont sur le terrain pour décrire ces cimetières familiaux, utiliser cette fiche, nous dire s'ils sont entretenus ou s'ils sont abandonnés, s'ils ont besoin d'être restaurés. Donc, actuellement, on en est à 400 fiches descriptives sur le département. On a terminé l'inventaire des cimetières familiaux de la vallée de Quin, qui sont au nombre d'environ 100. Hein, et on est en train de terminer également ceux de Vercheny et de Saint-Dizier en Diwa. Et puis d'autres inventaires sont en cours sur Minglon, sur Saint-Romand, sur Bourdeau, sur Dieulefi. Voilà, le travail avance lentement, mais c'est un inventaire qui n'avait jamais été fait de façon aussi précise, alors que, bien entendu, ces cimetières familiaux sont d'origine protestante, liés à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, et que les protestants étaient obligés de s'enterrer en secret dans leurs champs de pratiquement de 1685 jusqu'à 1787, l'édit de tolérance de Louis XVI. Et avec la Révolution, les protestants retrouvent leur état civil qu'ils avaient perdu, et puis tous leurs droits. Et on a aussi une activité, disons, de conférences. Moi, j'ai fait pas mal de conférences sur cette histoire d'une manière générale. Et puis, on entretient quelques cimetières. On peut entretenir ces petits cimetières familiaux sur demande. On en entretient quelques-uns et on a le projet d'en restaurer certains, ceux qui sont en état total d'abandon. Donc on a notre assemblée générale qui se tiendra le samedi 2 avril à Vercheny-le-Haut. Vous savez, Vercheny, il y a Vercheny-le-Bas et il y a Vercheny-le-Haut, que beaucoup de gens ne connaissent pas d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment y aller.
Je l'ignorais.
Hein, et c'est un joli village. Donc on fait notre assemblée générale dans la salle municipale de Vercheny-le-Haut, c'est-à-dire que c'est le samedi 2 avril après-midi. À partir de 14h, pour les gens qui le souhaitent, on peut faire une petite visite guidée des cimetières, de certains cimetières familiaux de Vercheny, il y en a environ une vingtaine. Et puis à partir de 16h, c'est l'assemblée générale classique avec ce que l'on a fait en 2015, les projets que l'on veut avoir en 2016. Et ensuite un petit pot, une discussion générale. Moi je ferai un petit exposé sur l'histoire des cimetières familiaux, l'histoire du protestantisme et du catholicisme, parce que les deux sont liés, et aussi l'évolution actuelle, parce que c'est toujours d'actualité, hein, étant donné que Die, par exemple, est jumelé avec Luisendorf, qui a accueilli des réfugiés huguenots Après la révocation de l'édit de Nantes, le Julmaz dit Louisendorf s'explique par cette histoire-là du protestantisme. De même, le sentier des Huguenots, qui est un sentier européen culturel de grande randonnée, qui va du musée du protestantisme de Poitlaval jusqu'en Allemagne du Nord, passe pas loin de Vercheny. Il passe à Pontet, il passe à Die, et on a le projet de faire une sorte d'itinéraire de découverte des cimetières familiaux de Sainte-Croix, probablement relié au sentier des Huguenots. Donc c'est quelque chose qui est actif, qui est vivant, qui se développe.
Vous parliez de recensement de ces tombes ou de ces cimetières familiaux. Et quelle est la méthode que vous utilisez actuellement pour les retrouver ou les inventorier?
Alors pour les retrouver, il y a plusieurs méthodes. En fait, il y a trois méthodes. Il y a sur les cartes IGN, quelquefois, il est marqué une toute petite croix, tombe. Donc quand on prospecte une commune pour la première fois, on peut regarder la carte IGN. Si vous avez une seule croix, vous pouvez être sûr qu'il y a au minimum un et peut-être 10, parce que tous ne sont pas identifiés sur les cartes IGN, cimetières familiaux. Donc, c'est les cartes IGN. Deuxième méthode, alors plus récente, plus moderne, que moi d'ailleurs j'utilise assez peu, c'est Géoportail, avec les photos. Donc on peut aller sur une commune, avoir la photo en vue aérienne de la commune, et à ce moment-là, vous repérez des petits carrés de végétation, et souvent, avec un cyprès, souvent un petit carré de végétation, c'est un cimetière familial. Mais il y en a qui sont devenus invisibles, hein. Il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont peu décelables. Et puis la troisième méthode, c'est de rencontrer des personnes âgées de la commune ou le maire, qui connaissent des fois bien l'histoire de leur commune, donc les cimetières familiaux, si c'est une commune qui en a. Donc là, on peut, avec une personne du village, faire le tour de la commune, et ces personnes nous indiquent souvent des cimetières familiaux qui sont complètement dans les broussailles, qui sont invisibles. Donc ça, c'est très important. Moi, c'est ce que j'ai fait à Vercheny avec Élie Arnaud, qui est un ancien maire. Pierre Martin, pour la vallée de Quin, a fait ça également. Donc vraiment, c'est une méthode. Et puis, de toute façon, la dernière méthode, c'est bien entendu d'aller sur le terrain avec la fiche descriptive et d'essayer de remplir ce que l'on peut sur la fiche descriptive, faire des photos, des dessins, et à ce moment-là, on a un relevé vraiment à peu près correct du cimetière, en particulier savoir s'il est entretenu ou s'il est abandonné, parce que vous avez des cimetières importants des fois, avec 5, 6, 10 tombes, avec des stèles, mais qui sont abandonnées. Parce que le problème de ces cimetières familiaux, c'est que ce sont des cimetières privés. C'est totalement privé. Et il y a des familles qui n'ont pas de descendants. Donc plus personne ne s'occupe du cimetière, il tombe en ruine, il est envahi par la végétation, alors que cela fait partie de ce qu'on appelle le petit patrimoine, mais qui n'est pas négligeable. Hein, vous avez quand même une autre association, comme nous, plus ancienne d'ailleurs, dans les Poitou et les Charentes. On peut considérer qu'il y a quand même près de 15 000 cimetières familiaux en France, hein, d'origine protestante. Donc c'est un petit patrimoine qui n'est pas négligeable, qu'il faut restaurer. Ça a été d'ailleurs pour cette raison qu'on a créé l'association, en voyant l'état d'abandon de certains de ces petits cimetières familiaux. Dans la Drôme, ils ne sont pas partout, bien sûr, hein, parce que vous avez des régions qui étaient de tradition protestante, donc qui sont restées dans la ligne du catholicisme. Ils sont très nombreux dans le Diois, très nombreux dans les baronnies du côté Bourdeaux, Dieulfi, La Charse. Il y en a beaucoup moins ou pas du tout dans le strict couloir rhodanien. Sur les hauts plateaux du Vercors, il n'y en a pratiquement pas. Et dans l'extrême sud du département, du côté d'Orpierre, semble-t-il, il n'y en a pas non plus.
Vous parliez tout à l'heure, suite à la Révolution, de la réattribution des droits civils aux protestants.
Oui, c'est la Révolution, ça.
Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir, est-ce que, de ce fait, certaines familles ont voulu rassembler de nouveau leurs morts dans un lieu plus unique, peut-être ?
Alors, il y a plusieurs... les familles ont eu des attitudes, des fois, très différentes. Bon, les cimetières, il y a des cimetières familiaux qui sont parfaitement entretenus. Hein. Les familles y tiennent beaucoup. Ce sont les racines, hein, familiales. Étant donné qu'on peut toujours créer son propre cimetière dans son terrain, à condition d'avoir l'accord de la préfecture et ce qu'on appelle un accord hydrogéologique qui passe par les préfectures, vous avez des cimetières familiaux qui sont récents, hein, y compris des cimetières où il n'y a que des catholiques ou des gens qui n'ont aucune conviction religieuse. Hein. Il est toujours possible de créer son propre cimetière dans sa propriété, à condition d'avoir l'accord de la préfecture. Donc il y a des cimetières, comme à Bourdeaux, il y a un cimetière qui a au moins 30 tombes, c'est entièrement une famille catholique. C'est toujours possible. Alors vous avez malheureusement, c'est vrai, des familles, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, donc... ce devrait être les oncles, les tantes ou les descendants des oncles et des tantes qui s'occupent du petit cimetière. Bon, ils s'en désintéressent, le cimetière tombe en ruine. Il y a ça. Quelquefois, alors des fois, grâce à notre association, les gens se disent « Ah ben tiens, il y a une association de sauvegarde, ben, peut-être que je vais essayer de retrouver le cimetière de mes arrière-grands-parents, on m'a dit qu'il était peut-être là. » Voilà, donc c'est aussi c'est l'association... stimule un peu cette redécouverte des cimetières familiaux et de cette longue histoire.
Votre association regroupe combien d'adhérents maintenant ?
On a environ une soixantaine d'adhérents. Donc c'est une association laïque, départementale. On se fait connaître par des petits articles, hein, dans le journal du Diwa, par exemple. Et puis, quand même pas mal par des conférences, parce que moi, j'ai donné une dizaine de conférences qui ont été suivies par environ 400 personnes. La dernière ayant eu lieu à Die, en janvier. Et puis, on a aussi, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a été rencontrer une association de l'Ardèche, qui s'occupe du patrimoine huguenot de l'Ardèche, qui s'occupe moins des cimetières familiaux. Mais il y a des associations comme ça qui s'occupent de ce qu'on appelle le patrimoine huguenot. Il y en a une en Ardèche, il y en a une dans les Baronnies qui a été créée l'année dernière. Voilà, donc on a aussi un petit peu un contact avec ces associations d'études de l'histoire d'une manière générale.
Vous expliquez que dans certains terrains agricoles, par exemple, on peut très bien retrouver un cimetière familial à l'abandon.
Oui.
Et comment ça se passe légalement ? Alors, qui est le propriétaire de cet espace ?
La famille qui a le cimetière est propriétaire de façon éternelle. La famille est propriétaire. Un cimetière familial... assez curieusement, échappe au capitalisme. Il est invendable, incessible. Il reste propriété de la famille de tout temps. Hein ? Et la famille a le droit d'accès au cimetière. C'est-à-dire que si ce petit... Ils ne sont pas grands. Hein, un cimetière familial, ça va de 2 mètres carrés jusqu'à 300 mètres carrés pour vraiment ceux qui sont plus importants. Donc ces petits cimetières ont une protection légale, comme tous les cimetières, hein, communaux ou familiaux. Si le champ... Il y a des cimetières, par exemple, qui sont au milieu d'un champ. Bon. Si le champ change de propriétaire, le nouveau propriétaire doit respecter le cimetière familial et il doit donner le droit d'accès à ce cimetière pour un enterrement, Hein, il y a la conservation du droit d'accès. Il doit y avoir un petit chemin. Et le propriétaire ne peut pas s'opposer à ce qu'un enterrement ait lieu dans un cimetière familial. Alors on a quand même, des cimetières qui ont disparu, ça c'est évident, hein, parce que c'était simplement il y a longtemps une personne qui a été enterrée, qui a voulu être enterrée au milieu de son sang. Sans, avec juste une petite croix ou très peu, bon, eh ben, des fois, l'agriculteur, il détruit ce petit cimetière. Donc, on a des exemples comme ça de cimetières qui ont disparu. À partir de 1881, il était conseillé que le cimetière soit enclos, c'est-à-dire qu'il y ait un mur, ce qui, en effet, est mieux. Parce que si vous avez un mur ou un grillage, une ferronnerie, cela évite que les troupeaux n'entrent dans le cimetière et ne le détruisent. Donc c'est une protection aussi pour éviter la destruction de ces petits cimetières. Donc pas mal de cimetières sont enclos, hein, soit par un grillage, soit par un mur. C'est comme ça aussi qu'on peut les repérer. Et la dernière façon de repérer, bien entendu, c'est le cyprès, qui est l'arbre symbolique de la foi qui monte vers le ciel. Donc on peut repérer aussi ces petits cimetières avec l'observation des cyprès.
En parlant de cimetières, est-ce qu'on pouvait historiquement aussi trouver des cas de pillage de tombes ?
Des cas de ?
Pillage de tombes. Est-ce que ça s'est produit historiquement dans vos archives ? Est-ce que vous avez trouvé trace de ce genre de méfaits ?
Dans les archives, il y a presque rien, hein, parce que par exemple dans une archive municipale, vous enregistrez le décès d'une personne, monsieur, madame un tel est décédé à telle date, c'est enregistré à la mairie, mais rien n'indique où elle est enterrée. On ne sait même pas si c'est dans un cimetière catholique ou si c'est dans un cimetière familial. Donc, au niveau des archives historiques, dans la localisation des cimetières, il n'y a rien. Il faut vraiment un travail de terrain. Alors, bien sûr, il y a eu des publications sur l'histoire des cimetières familiaux. Moi-même, j'ai écrit un article qui est paru dans Études Dromoises, sur les cimetières familiaux. C'était basé sur la commune de Poyol, que je connais bien, et qui a 30 cimetières familiaux. Donc il y a un article dans Études Dromoises qui est paru. D'autres personnes ont publié des articles. Alors vous avez les généalogistes qui s'intéressent un peu aux cimetières familiaux. Et d'ailleurs, l'une des conférences que j'ai données à Montélimar, c'était dans le cadre d'une assemblée de généalogistes. Parce que c'est un peu complémentaire. Hein. Les généalogistes travaillent sur les archives, mais sur les cimetières familiaux, il n'y a rien, ou très très peu, c'est insignifiant dans les archives. Donc, des fois, ils s'intéressent, ils peuvent s'intéresser à nos activités, parce que nous, on répertorie de façon très précise. Et puis, quelquefois, dans les cimetières familiaux, vous trouvez une indication de ce que faisait la personne. Des fois, on sait que c'était un chasseur, parce qu'il y a une plaque des chasseurs, ou un agriculteur, parce qu'il y a une petite plaque avec une charrue qui laboure. Vous voyez, il y a comme ça des petites traces. D'autre part, alors nous, quand même, quand on répertorie un cimetière familial, et qu'il se trouve que dans ce cimetière familial, il y a une personnalité qui est enterrée, on essaye quand même de rassembler un peu certaines informations sur cette personnalité. Hein, à Bourdeaux, par exemple, vous avez un cimetière familial où est enterré un pasteur, Alexis Muston, qui a été l'un des pasteurs les plus connus en France du XIXe siècle et qui était un grand historien des Vaudois. du mouvement des Vaudois, et qui était aussi un excellent dessinateur, un homéopathe en avance sur son époque, herboriste, etc. Voilà. Donc, à Poyol, vous avez le député radical socialiste Archimbaud, qui est enterré dans un cimetière familial à Poyol. Voilà, vous avez quand même pas mal de personnalités. Donc on essaye un peu, quand on sait ça, de rassembler quelques informations sur ces personnes-là. Il y a des poètes, il y a des peintres, il y a des pasteurs aussi, bien sûr. Hein, derrière le temple de Luc, vous avez, à Luc-en-Diois, vous avez un petit monument, une petite colonne. C'est un pasteur qui est enterré là, à l'abbaye de Valcroissant. Vous avez un pasteur aussi qui est enterré, qui a été l'un des propriétaires de l'abbaye de Valcroissant.
Cette association, au fond, qu'est-ce qui la motive à s'occuper des cimetières familiaux ?
Donc l'association ne vit que par les dons, les adhésions. Hein, on a une adhésion de 10 euros, donc elle ne vit que par les dons des adhérents. On a juste une petite subvention de 50 euros par la mairie de Die, parce que on a terminé, probablement, on n'est jamais sûr de terminer à 100%, hein, parce qu'il y en a qui sont tellement enfouis. Mais on a probablement terminé l'inventaire exhaustif des cimetières familiaux de la commune de Die, qui sont au nombre de 8, essentiellement sur la route de Valcroissant et à Ausson, hein, du côté d'Ausson. Et on veut restaurer un cimetière familial en état total d'abandon, qui est d'ailleurs celui d'un fervent catholique, hein, qui est le lieutenant-colonel Audi Fray, qui a été un ancien maire de Die en 1876, et qui surtout a été le donateur des trois quarts de sa fortune aux hospices de Die. Il a donné des terrains et des sommes d'argent non négligeables aux hospices de Die. Donc il a un cimetière où il n'y a absolument rien, enfin il n'y a plus rien, ni plaque, rien. Donc on veut faire une petite stèle, une petite plaque, voilà. Donc ça, c'est l'un des projets 2016 que l'on a, de restaurer le cimetière, on ne peut pas dire familial, parce qu'il est le seul à être enterré là, il n'a plus de descendants. Hein. Mais bon, c'était un souci aussi de remercier, avec un temps de retard, hein, parce que c'est 1876, de remercier celui qui a bien aidé à une époque les hospices et l'hôpital de Die.
Jean-Claude Rouchouz, est-ce qu'il existe une page internet pour connaître votre association ?
Voilà, donc on a un site internet, hein, sur Google, sur internet, il faut faire cimetières familiaux Drôme, wordpress.com, cimetières familiaux Drôme. Et quand on fait cimetières familiaux Drôme, en fait, il y a pas mal d'informations que l'on peut consulter. Et d'ailleurs aussi, j'ai l'une de mes conférences, qui était celle de Die, hein, qui passe sur YouTube. Donc sur YouTube, on peut écouter la dernière conférence que j'ai faite. C'était à l'hôpital de Die, à la salle Reynaud. Et puis ça, c'était enregistré par un journaliste, filmé par un journaliste du journal du Crétois. Donc sur YouTube, cimetières familiaux aussi. Et puis le site internet, en fait, cimetières familiaux Drôme, c'est la meilleure méthode pour avoir des informations sur les cimetières familiaux. Et puis si vous faites seulement cimetières familiaux, vous avez aussi des informations sur ceux de La Rochelle, sur l'association de La Rochelle, voilà.
C'est à partir de ce site que les personnes intéressées pour venir à l'Assemblée Générale pourront avoir les renseignements.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis... voir aussi ce que l'on a fait dans le passé, les projets que l'on a. Il y a des informations aussi de type juridique. Hein. Voilà, il y a pas mal d'informations.
Des événements à venir prochainement?
Alors,
aussi
les événements à venir, il y a, on va accueillir un groupe de gens du Poitou et de Charente qui s'intéressent à la région, y compris aux cimetières familiaux. Donc ça sera vers le 10 mai. Et vers le 20 mai, 22 mai, vous avez ce qu'on appelle le printemps des cimetières, c'est-à-dire une journée consacrée à la découverte des cimetières communaux ou familiaux. Et ça, là, on va probablement faire une visite guidée de cimetières familiaux du Diois.
Une journée nationale aussi.
Une journée nationale. Ça sera, je crois, la première, hein, le printemps des cimetières. C'est une initiative nationale par des gens qui s'intéressent au patrimoine.
Jean-Claude Rouchouze, merci d'être venu nous présenter cette Assemblée Générale à venir le 2 avril, donc l'après-midi à Vercheny-le-Haut. Il faut le préciser.
Dans la salle municipale.
Dans la salle municipale, donc. Et venez nombreux à partir de 14h, je crois bien, donc avec une introduction d'une conférence de votre part sur l'histoire.
Donc à partir de 14h, petite visite, disons, de Vercheny, et puis 16h, c'est l'Assemblée Générale.
Eh bien, bonne soirée.
Merci bien.
Interview. 1 Terre.
Okay. The bird.